France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse week-end. Et ce matin, nous explorons quelques mystères des sciences de la vie et de l'univers avec le physicien Christophe Galfard, des mystères sources d'émerveillement inépuisables, comme la grande interrogation qui irrigue son nouveau livre « Comment définir le vivant ?» L'émerveillement qui doit rester au cœur des sciences, selon la chercheuse au CNRS Emmanuelle Puy-de-Bac, que nous accueillerons dans quelques instants. Et vous, racontez-nous sur l'appli Radio France ce qui vous émerveille dans le domaine scientifique. Alors chaque semaine, ce duo est une source d'émerveillement pour moi, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Audicino. Bonjour Thibaut.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie, quel est le menu de votre punchline philo, l'une des plus célèbres phrases de l'histoire de la pensée?
Oui, cette fois-ci on s'intéresse à Rabelais et peut-être une de ses citations les plus célèbres, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique Cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de ciné-thérapie dans une vingtaine de minutes?
Ben, puisqu'il va être question du vivant, je vais vous parler d'une période de la vie qui est très, très vivante.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse week-end, l'émission qui prend du recul avec votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Quand nous touchons nos cheveux ou nos mains, nous touchons à des atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, qui ont été fabriqués dans des étoiles, à l'intérieur d'étoiles, comme le Soleil, mais qui ont vécu avant le Soleil, qui ont vécu il y a plus de 5 milliards d'années, qui ont eu tout leur cycle de vie, naissance, vie, mort, et qui ont ensuite éjecté leur matière dans l'espace par cette espèce d'éclat de matière qui se répand dans l'espace.
L'astrophysicien Hubert Reeves est extraordinaire conteur sur FR3 le 28 mars 1985. Bonjour Christophe Galfard.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, d'accueillir la poussière d'étoiles que vous êtes, pour reprendre le titre d'un livre d'Hubert Reeves. Vous êtes docteur en physique théorique de l'Université de Cambridge. Une thèse de doctorat sur les trous noirs sous la direction de l'astrophysicien Stephen King. Hawking. Non, parce que je suis en train de lire un Stephen King en ce moment.
C'est très très mignon.
Sous la direction évidemment de l'astrophysicien Stephen Hawking, et vous produisez l'émission Big Bang le samedi matin à 11h sur France Inter. On vous doit l'immense succès L'univers à portée de main, et vous publiez en coédition avec notre station chez Albin Michel La vie à portée de main, où vous vous demandez d'où vient la vie. C'est une interrogation sur les mystères des sciences de la vie et de ses liens avec l'univers, et vous posez cette question: comment la vie a-t-elle fini par être aussi omniprésente depuis les profondeurs du ciel jusqu'au plus haut du ciel? Comment a-t-elle vraiment commencé, et sommes-nous seuls dans l'univers? Bon sang, sommes-nous seuls?
Écoutez, c'est pas mal de commencer directement par cette question-là, parce qu'il y a un cheminement dans le livre pour essayer de répondre à cette question. Parce que si je vous demandais à vous, Ali, pourquoi il y a de la vie, c'était les profondeurs de la Terre jusqu'au plus haut du ciel, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a de la vie absolument partout, et est-ce qu'on pourrait en retrouver ailleurs? Ben, pour en trouver ailleurs, et pour ne serait-ce que reconnaître que c'est vivant, il faudrait déjà savoir de quoi on parle et de ce qu'est la vie.
Et oui, la grande question qui vous occupe au cours des 559 pages du livre, c'est comment définir le vivant. Alors au cours de votre exploration, les distinctions entre le vivant et le non-vivant s'estompent. Vous montrer qu'il existe une continuité matérielle entre le vivant et le non-vivant. Et l'une des grandes caractéristiques du vivant, eh bien, c'est quoi? C'est le flux? C'est le mouvement?
Ben justement, il n'y en a pas vraiment de caractéristiques qui soient propres au vivant. C'est ce qu'on découvre petit à petit. Lorsqu'on nous voit, nous, je vous donne un exemple tout bête, on a l'impression que si on devait définir le vivant, on dirait qu'il faudrait que ça mange, que ça respire, que ça apparaisse et disparaisse, naisse et meurt, que ça puisse se propager, qu'il puisse y en avoir ailleurs. Ben le feu correspond à toutes ces définitions. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de bois, disons, pour manger. Il peut vivre et mourir, il peut se propager. Et les définitions sont moins simples que ce qu'on croit.
En tout cas, vous aimez bien utiliser la métaphore de la cascade pour bien faire comprendre ce qu'est le vivant. Expliquez-nous.
On peut avoir l'impression que nous sommes des choses qui sont permanentes, que nous avons nos corps, que nous sommes ce que nous sommes, et un point c'est tout. Que voilà, nous sommes là, l'extérieur est autour de nous, rien ne change. Mais lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près ce dont sont faits nos corps et comment ils fonctionnent, On réalise que si vous touchez, Ali, la main de quelqu'un là, aujourd'hui, d'un enfant, de quelqu'un que vous aimez, ou d'un ami, eh bien ce n'est pas la même peau, ce ne sont pas les mêmes matériaux que vous toucherez là, que vous auriez touché il y a 3 semaines, ou vous toucheriez plus tard. C'est pour ça que je compare d'une certaine manière nos corps à des cascades, car une cascade, l'eau va passer, la cascade demeure. La cascade a besoin d'eau qui passe pour être. Nos corps, c'est pareil, nos êtres, c'est pareil, tous les organismes vivants, c'est pareil. Ils demeurent alors que la matière qui les constitue passe.
Le flux, le mouvement caractérise le vivant, mais il y a aussi la mémoire du vivant. Et cette mémoire du vivant, c'est l'ADN.
Une question qui a taraudé nos ancêtres depuis extrêmement longtemps, c'est pourquoi nous donnons naissance à des êtres qui nous ressemblent et non pas, je sais pas, moi, un pingouin. Pourquoi est-ce que... Je parle d'un pingouin parce qu'un oursin, ce serait plus douloureux. Mais pourquoi est-ce qu'on donne naissance, voilà, à d'autres humains? Pourquoi les girafes donnent naissance à des girafes? Pourquoi une plante va se propager en tant que plante? C'est qu'il y a forcément quelque chose à l'intérieur de ces organismes qui tient la mémoire de ce que cet organisme est pour pouvoir la transmettre. Cette mémoire qu'on appelle l'hérédité et qui s'applique à absolument tout le vivant qui existe sur Terre, on a découvert qu'il y a quelques centaines d'années à peine ce que c'est. Et on a réalisé petit à petit au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, qu'une molécule, c'est-à-dire un assemblage d'atomes, ces atomes dont Hubert Reeves parlait, qui ont été fabriqués dans des étoiles il y a bien longtemps, et ben ces atomes-là, assemblés d'une certaine manière, gardent en eux la mémoire de ce qui était avant et est transmise aux générations futures. Et effectivement, l'ADN...
Alors Christophe Galfard, votre livre raconte la grande aventure de la vie à travers l'espace et le temps, avec comme boussole l'émerveillement. Votre livre ne cesse de s'émerveiller devant le miracle du vivant. Pourquoi est-il fondamental de s'émerveiller des sciences de la vie et de l'univers?
Je ne sais pas si c'est fondamental de le faire, mais en tout cas, c'est un fait. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant apprendre quelque chose, comprendre quelque chose et se mettre à pleurer?
Non.
Non, ça n'arrive pas. Quand on comprend, quand soudain on voit les choses, ça fait du bien au corps, à l'esprit, à tout ce qui est dans nos âmes. Donc c'est peut-être quelque chose qui est inhérent à notre espèce, que d'avoir ce plaisir extraordinaire de comprendre les choses.
Et parmi les idées reçues qui vous agacent quand on parle de science, c'est l'idée qu'elle serait aux antipodes de la poésie.
Alors, non seulement de la poésie, mais aussi de l'imaginaire. On pourrait croire que la science... Quand les gens disent « Oui, mais t'es hyper rationnel parce que t'es scientifique », ça veut dire quoi, rationnel, dans ce cas-là? Ça voudrait dire que, voilà, j'applique des lois qui sont immuables, que je peux pas changer, pas bouger. Lorsqu'on fait de la recherche, le but de la recherche en physique, disons par exemple, mais on va inclure la biologie, c'est d'essayer de comprendre jusqu'où on en est arrivé aujourd'hui, car y a pas mal de choses à dire là-dessus, ne serait-ce que le fait que notre savoir, il est impossible de l'acquérir en une seule génération. Ce que nous savons, nous, humains, aujourd'hui, c'est l'accumulation du savoir trouvé par des hommes et des femmes depuis des siècles. Nous sommes les héritiers d'une connaissance, d'une transmission qui a eu lieu petit à petit et qui nous a amenés aujourd'hui. Mais cette transmission et ces connaissances ont, à chaque époque, leurs limites. Lorsqu'on atteint ces limites, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais lorsqu'on atteint ces limites, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est un voyage de pensée. C'est un voyage où il faut peut-être inventer des nouveaux mots, inventer un nouveau langage. L'imaginaire est le seul outil que nous ayons pour aller au-delà, et c'est un imaginaire qui peut être alimenté par toutes les poésies du monde.
Vous parlez de poésie, d'imaginaire, et pour vous, la science est également une grande méditation humaine sur le sens de la réalité qui nous entoure.
Oui. Absolument. Il y a deux choses dans ce que vous dites là, il y a sens et réalité. Si on parle de la réalité, on peut faire peut-être une distinction entre ce qui est réellement autour de nous, pour peu que ça veuille dire quelque chose, et l'image que nous nous en faisons dans nos têtes. Nous n'avons jamais qu'une image de la réalité dans nos têtes, qui en général est construite à partir de ce que nous recevons, de ce que nous ressentons, de nos sens, de nos 5 sens, qui sont 5 petites fenêtres sur une réalité qui est beaucoup plus vaste que ce que ces sens permettent de percevoir. Et voilà, d'essayer de donner un sens à cette réalité, c'est déjà de trouver des lois qui sont là, et ça aurait pu ne pas être le cas, bah, il se trouve qu'il y en a. On a découvert qu'il existait des lois qui ne sont jamais parfaites, mais qui nous permettent non seulement de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, mais même de prédire le futur, voire de lire le passé. Et grâce à ça, on se donne une structure. On pourrait croire, par exemple, que la science enlève une finalité à nos existences. Pour moi, c'est un petit peu l'inverse. Elle en donne une, ne serait-ce qui pourrait être celle de découvrir ce qui est caché autour de nous.
Vous parlez de lois, et ce qui ne cesse de vous émerveiller, Christophe Galfard, ce sont ces lois qui s'appliquent à l'ensemble de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Et vous en parliez hier, hein, on s'est croisés hier, on était à la cafétéria de Radio France, et vous me parliez de tout ça avec des étoiles dans les yeux.
Bah, oui, moi j'aime bien. J'aime bien tout ça. Il y a quelque chose, je vous donne quelque chose d'assez amusant. Imaginez qu'on est il y a, je sais pas, 400-500 ans, et que je vous demande de me décrire la façon dont vous imaginez l'univers tout entier. Eh ben, il y a de fortes chances, si vous étiez en Occident, si on est en Occident à cette époque-là, que votre culture, qui découle directement des découvertes et des pensées d'Aristote, même il y a 400 ou 500 ans, c'est-à-dire 1500 ans après Aristote, que ces idées soient celles qui étaient dans la population générale et même dans l'esprit des chercheurs. Et cette idée était que, oui, il existe peut-être des lois cachées qui sont là, qu'on pourrait éventuellement trouver. Il faudrait creuser, il faudrait essayer d'appréhender les choses, et il a commencé cela. Mais il a dit quelque chose aussi, que je trouve fabuleux, il a dit que ces lois ne s'appliquent que dans le domaine qui est accessible aux humains. Et ce domaine-là, c'était tout ce qui se situait sous la Lune. En dessous de la Lune, le domaine sublunaire, c'était notre berceau, c'était notre territoire, et là, des lois pouvaient se cacher, on pouvait les trouver. Au-delà, c'était le domaine des dieux. Donc notre imaginaire pouvait essayer de projeter des choses, de toute façon, c'était exclu qu'on puisse comprendre quoi que ce soit, si ce n'est inventer des histoires. Et c'est là que Newton est arrivé. J'ai pensé à ça parce que vous avez parlé de gravitation à l'instant. Et Newton nous a donné une loi que tout le monde connaît de nom, qui s'appelle la gravitation universelle. Et le mot important, c'est universel. Parce qu'avec ce mot-là, il a fait voler en éclats les barrières qu'Aristote avait mises à notre imaginaire. Avec cette universalité de sa gravitation, notre esprit a soudain pu se balader dans le cosmos tout entier. Vous imaginez la liberté soudaine que ça a offerte aux scientifiques, aux tous les penseurs qui ont jamais existé? Eh ben, c'est encore pareil aujourd'hui. À chaque fois qu'on est aux limites de quelque chose, il y a toujours une femme ou un homme qui va être là et qui va dire « Ah, mais on peut peut-être aller plus loin ».
Bonjour Emmanuel Puy-Debat, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est le paléontologue Yves Coppens, ça, qui avait dirigé votre thèse. Et vous venez de publier « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir, les animaux et la mort ». Une réflexion sur ce que vient de nous dire Christophe Galfard sur les liens entre la science, la poésie, l'imaginaire.
Oui, bien sûr. Bah, Yves Coppens m'appelait Emmanuel au Pays des Merveilles, donc ça résume assez bien. Moi, effectivement, je suis assez irritée quand on oppose poésie avec science ou émotion avec science. Pour moi, les émotions, elles sont au cœur des sciences. Moi, en ce qui me concerne, l'émerveillement suscite chez moi des questions scientifiques pour lesquelles je vais adosser des hypothèses. Et en fait, les hypothèses scientifiques, c'est rien d'autre que de l'imagination, en fait. Hein. On va imaginer des questions scientifiques en lien avec ce qu'on a observé, ce qu'on a lu, et c'est l'émerveillement qui va susciter ces questions scientifiques et qu'on va tester et on va apporter de nouvelles réponses, etc. Donc oui, les émotions, elles sont au cœur de notre travail de scientifique, pour moi. Et c'est aussi l'aspect poétique, c'est presque philosophique tout ça, hein. C'est l'aspect poétique que va susciter chez moi et chez d'autres collègues, hein, l'observation des animaux, puisque c'est au cœur de notre travail. Bah, finalement, ça ouvre tout un champ des possibles. Hubert Reeves me faisait rêver, tout comme Yves Coppens. Quand j'étais enfant, l'univers c'est vertigineux, et finalement le comportement animal c'est vertigineux aussi, parce qu'il y a encore tout à découvrir. Chez les animaux, il y a des millions d'espèces, on en a décrites que 10 000, hein. Donc voilà, c'est l'aspect vertigineux aussi qui, moi, pour moi, suscite un émerveillement colossal.
Donnez-nous un exemple de cet émerveillement au cœur de la démarche scientifique, Emmanuel Puy-Debat.
Un exemple très simple qui me vient de mon enfance, mais aujourd'hui c'est exactement la même chose. Moi, quand j'observe j'observais des libellules quand j'étais petite, ça me fascinait. Je les voyais aller à toute vitesse avec une manœuvrabilité incroyable. Parfois, elles faisaient du vol stationnaire. Voilà, je me disais, mais comment c'est possible qu'un animal puisse faire autant de choses? Et puis finalement, après, en grandissant, on se rend compte que la physique, elle n'avait pas tout résolu non plus. Le vol stationnaire, ça a été une énigme des physiciens pour les physiciens pendant très longtemps. L'hélicoptère, il ne s'est pas inventé en 3 jours. Donc voilà, on observe, on a des questions. Là, pour mon dernier livre sur la mort, c'est la même chose, en fait. Vous avez un animal qui décède, vous avez, autour de cet animal, vous avez des individus qui vont être agressifs, d'autres qui vont s'isoler, certains vont arrêter de s'alimenter. Voilà, vous avez une diversité de réactions qui vont créer, finalement, dans mon imaginaire, des questions. Est-ce qu'ils ont conscience que que leur congénère est mort? Est-ce qu'ils ont conscience de l'irréversibilité de cette action, de ce fait? Et bien finalement, voilà, après, on va poser une question, on va poser une hypothèse sur la question de l'irréversibilité, la conscience de la mort de l'autre. Et on va essayer ensuite d'imaginer des protocoles, des expériences qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Donc pour moi, ça part beaucoup de l'observation, mes questions scientifiques, mais ça peut être aussi, évidemment, au gré des lectures scientifiques. Vous allez avoir un collègue qui va répondre à une question scientifique dans un article, et puis à la fin, on sent qu'il y a plein de perspectives, et ben on va en attraper une, et on va se dire, moi, avec ce que j'ai observé, je pense qu'effectivement, un éléphant, avec la capacité physique de sa trompe, il est capable de générer des nouvelles générations de robots préhenseurs. Voilà, ça fait partie des autres projets que j'ai. Donc tout ça vient de l'observation. On s'alimente finalement de plein de connaissances, et puis ça génère toute une démarche scientifique qui est vertigineuse.
Christophe Galfard.
Oui, c'est amusant cette idée de science du vivant, parce que lorsqu'on parle de science, en tout cas de manière un petit peu historique, même si en revenant à Aristote, il a regardé absolument tous les domaines et toutes les disciplines possibles, depuis le cosmos jusqu'au vivant, et il se trouve qu'on a découvert une fois de plus au XXe siècle, XIXe siècle, que le vivant lui aussi avait certaines lois, et que nous, humains, nous faisions partie du vivant, nous n'étions pas un être qui était extérieur au reste de la nature, comme peut-être les lumières ont voulu nous le faire croire, ou ont peut-être espéré cela pour pouvoir utiliser le monde qui nous entoure. Nous, on a découvert qu'on fait partie du monde vivant qui existe sur Terre, d'une énorme famille, et que tout le vivant sur Terre est fait des mêmes atomes.
Emmanuel Puy-de-Bas.
Complètement. Et moi, je passe mon temps à expliquer que les humains ne sont pas au sommet de la pyramide des animaux. Il y a des choses qu'on fait très bien, puis il y a des choses qu'on fait beaucoup moins bien que certaines autres espèces. Donc, on fait partie d'une diversité du vivant, tout comme les autres espèces, avec aussi des caractères uniques. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est la diversité qui est passionnante. Et vous mentionniez Aristote. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est cette capacité qu'on a eue à mettre de côté les émotions animales, qui sont encore aujourd'hui très largement sous-estimées, alors qu'à une époque, elles faisaient partie de l'observation factuelle des individus, qu'on observait, qu'on étudiait, etc. Et je pense que malheureusement, le fait d'avoir sous-estimé très largement ces émotions animales a contribué aussi, tristement, justement à des comportements pour certains de maltraitance, ou cette propension qu'on a de les tuer parfois aussi facilement. Et ça fait partie des choses qu'il faut réhabiliter. Faut se reconnecter au vivant et aux émotions animales, parce qu'on passe à côté de plein de choses, y compris sur des questions scientifiques très complexes. Moi, je pense qu'on a largement sous-estimé justement l'impact des émotions animales dans l'évolution, par exemple. Les émotions ont un effet direct sur la cognition. On sait très bien que quand on est un peu stressé, ça va nous motiver et on va peut-être réussir un contrôle de maths, par exemple. Et puis si on l'est trop, ça va être complètement inhibiteur. Tout ça est beaucoup plus complexe, mais le lien entre émotion et cognition, il est très important. Et je pense qu'à certaines époques, finalement, cette interdisciplinarité était évidente. Voilà, faire de l'astrophysique en même temps que de la philosophie et de la biologie, c'était finalement
chose courante. C'est ce que fait Christophe Galvoir.
Ben voilà, et aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, et moi c'est ce que j'ai fait aussi. Moi je suis très interdisciplinaire, c'est ce qui me fascine, et je pourrais pas faire la science autrement. C'est pour ça que je le comprends très bien.
Merci beaucoup Emmanuel Puy-de-Bas, Les oiseaux se cachent-ils pour mourir, les animaux et la mort, c'est publié chez Delachaux et Niestlé. Il est 10h26, c'est l'une des lois générales de la nature, bah, c'est de retrouver Guillemette Odissino à cette heure-là pour sa ciné-thérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
C'est la première fois qu'on me traite de loi de la nature. Hein. Moi, je suis... Voilà. Bon, alors, cher Ali, honnêtement, vous commencez à m'agacer. Hein.
Oh là.
Ouais, à force d'inviter des auteurs d'une telle trempe. Alors, la semaine dernière, dans la même émission, il y avait un professeur émérite de littérature et l'auteur du carton mondial Les yeux de Mona, qui vulgarise si bien l'art. Et aujourd'hui, pim, voilà, Christophe Galfar, l'homme qui a rendu l'univers accessible et propose maintenant, rien que, l'histoire de la vie à la portée de tous. Comment qu'on fait, nous, les simples chroniqueurs ? Comment qu'on fait pour être au niveau de 560 pages d'un bouquin formidable ? Bon, alors un principe de non-évolution très personnel, voulant que, même si cela me passionne, je suis toujours aussi nul en science qu'en 3e B, j'ai donc pris l'expression « la vie à portée de main » au sens quotidien et affectif. Mais ça me fait plaisir parce que le terme que je vais employer maintenant, il a déjà été beaucoup dit dans l'émission. La vie à portée de main, bah c'est un enfant. Alors je me retiens, hein, je suis gentil avec vous, je me retiens de chanter la chanson d'Yves Duteil. Mais souvenez-vous du début.
Retenez-vous,
oui. Oui, je me retiens. Mais souvenez-vous du début. Prendre un enfant par la main et l'emmener vers demain. Ouais, alors facile à dire, Yves, quand le mot demain fiche de plus en plus la trouille et fout les glandes. Allez, allez, on va croire encore et toujours en la beauté de la vie, son émerveillement, en regardant Mirai, ma petite sœur, de Mamoru Hosoda, l'un des maîtres de l'animation japonaise.
Kun, c'était ta maman? Elle arrive.
Je te présente ta petite sœur. Elle s'appellera Mirai, ça veut dire l'avenir.
Tu seras gentil avec elle. Tu la protégeras.
Je l'aime pas.
Ne la tape pas. Je t'ai dit d'être gentil avec elle.
Alors, la petite Mirai est sans doute le plus beau bébé jamais dessiné pour le cinéma. Le visage de la mouflette à la fragilité d'un pouton de rose, l'éclat d'une pierre de lune. Et Mamoru Hosoda saisit aussi chaque détail de son grand frère au travers du tamis le plus fin. Ce chef-d'œuvre sur le quotidien d'une famille propose de plus l'idée géniale de résorber la jalousie du petit garçon en le faisant voyager dans le temps et rencontrer la version adolescente de sa sœur, merveilleuse manière de l'aider à grandir. La généalogie peut être un arbre magique d'évolution.
Alors si vous parlez d'enfance, docteur Odissino, n'êtes-vous pas obligé tout de même de prescrire une dose de Spielberg ?
Bah, évidemment, c'est la base de l'automédication en milieu hostile. Rendez-vous compte, il y a déjà 25 ans, alors qu'un truc comme ChatGPT était à peine en germe dans l'esprit de quelques futuristes, le grand Steven mettait le terme « intelligence artificielle » en titre d'un de ses films. Et que raconte AI, intelligence artificielle ? Je vous laisse écouter un bout de la bande-annonce, comme ça j'économise ce qui reste de mon intelligence de plus en plus partielle.
Dans un avenir lointain, à une époque de machines intelligentes, c'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille. Son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes et les machines.
Je suis un petit garçon.
Tu es un vrai petit garçon.
En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un.
Alors cette version 2.0 de Pinocchio est à revoir d'urgence, hein, de nos jours où les hommes ne peuvent plus acheter une baguette, faire une déclaration d'amour ou diriger le monde sans demander son avis à une machine. Car à l'inverse, le film raconte l'histoire d'un androïde de 11 ans qui ne rêve lui que d'une chose, devenir humain, être traversé par cette cascade. Alors certes, il a été programmé pour aimer, mais il sent bien qu'il faut cheminer pour gagner une vraie humanité. Et puis en plus, pour ce faire, il tient la main d'un autre androïde, gigolo de sa profession, auquel Jude Law prête ses six beaux traits. Cela dit en passant, le film se déroule dans un 22e siècle où une partie de la Terre a été ravagée par le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Et c'est parce que la population mondiale a été réduite que des mechas, donc des robots androïdes, ont été créés en remplacement. Voilà, voilà, cette évolution, je mets des gros guillemets à évolution, n'est pas tout à fait à portée de main, mais ça nous pend au nez.
La cinéthérapie de la docteure Guillemette Odissino, rappelez-nous votre cinéthérapie.
Bah, AI, intelligence artificielle de Spielberg et Mirai, ma petite sœur de Mamoru Hosoda.
Allez, on continue à s'intéresser aux merveilles des sciences de la vie et de l'univers avec Christophe Galfard. On se retrouve juste après avoir écouté Fatboy Slim qui interprète Prize U You, un titre de 1998, 10h31 sur Inter. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Titre que vous adorez, Christophe Galfard, ce titre de Fatboy Slim, Praise You.
Praise You, oui, ouais. C'est absolument. J'aime beaucoup.
C'est bien, vous me reprenez discrètement sur mon anglais.
Pardon.
Alors, il faut.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse Week-end, on s'intéresse aux mystères des sciences de la vie et de l'univers avec le physicien Christophe Galfard qui publie La vie à portée de main, une interrogation sur les mystères des sciences de la vie et ses liens avec l'univers. Alors, je recite bien la phrase que, du tout début que j'ai mal citée. Hein, je m'en veux un peu, mon cher Christophe Galfard. Comment la vie a-t-elle fini par être aussi omniprésente depuis les profondeurs de la Terre jusqu'au plus haut du ciel? Comment a-t-elle vraiment commencé? Et sommes-nous seuls dans l'univers? Et c'est vrai que l'un des grands mystères de l'histoire de la Terre, et c'est qu'elle est apparue il y a 4 milliards et demi
d'années,
mais dans un univers pas très accueillant, carrément hostile. Et c'est dans cet endroit infernal que la vie a tout de même trouvé le moyen d'apparaître.
Bah, en réalité, si on essaye de voir un petit peu quelle est... On arrive en creusant les sols et en regardant ailleurs dans l'espace à remonter dans le temps et à comprendre l'histoire de notre monde. Et comme le disait Hubert Reeves au tout début, dans l'extrait qu'on a entendu au tout début, ce n'est pas que nous qui sommes poussière d'étoiles, mais la Terre en entier. Le Soleil lui-même est poussière d'étoiles qui ont existé au préalable et qui, en explosant, ont éjecté dans l'univers tout entier le fruit de leur vie, qui était de fabriquer des nouveaux atomes. Ces nouveaux atomes sont devenus des nuages gigantesques qui, en se contractant sous l'effet de la gravitation, ont donné naissance à de nouvelles étoiles, comme le Soleil et les planètes qui tournent autour. Donc si vous imaginez, il y a à peu près entre 4,5 et 5 milliards d'années, notre endroit dans l'espace, eh bien il y avait un nuage qui s'est effondré sur lui-même et qui est devenu la Terre. Et oui, c'était extraordinairement hostile. Il n'y avait pas d'atmosphère, les roches, disons, si on veut les appeler comme ça à l'époque, étaient fondues, il faisait trop chaud. C'était vraiment un enfer. Notre planète a été bombardée de comètes et de roches de l'espace, des météorites, pendant des milliers et des milliers d'années, pour au final se refroidir, avoir cette eau qui est apparue à sa surface. Peut-être qu'elle vient en partie de l'espace, peut-être qu'elle a suinté des roches, les deux probablement en partie. Et comme vous le disiez, relativement rapidement dans ce monde absolument infernal, qu'on a appelé l'AD1 d'ailleurs, pour Hadès, du dieu des enfers, la vie est apparue. Exactement comment ? Eh ben, c'est un des gros points d'interrogation que le livre essaye d'atteindre.
C'est tout l'objet de votre livre. Christophe Galfard, vous avez consacré votre thèse de doctorat aux trous noirs. Comment est né cet intérêt pour les trous noirs ? C'est né d'un émerveillement d'enfant devant les photographies de l'espace. C'est ça qui a fait naître en vous un imaginaire extraordinaire et une envie d'astrophysique ?
En fait, c'est une envie de science.
Une envie de science.
Parce que j'ai réalisé, adolescent, à un moment, que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme Aristote nous l'avait appris déjà il y a plus de 2000 ans, qu'il y a des choses à trouver qui nous permettent de comprendre ce qui est autour de nous. D'ailleurs, qu'on aime ou non la physique, qu'on en ait fait ou non dans notre vie, qu'on ait aimé ça à l'école, qu'on ait été bon ou nul, on a tous le sentiment qu'il existe des lois. Par exemple, si on lance un objet à quelqu'un, sans même le lancer, si on fait le geste, on va pouvoir imaginer la trajectoire de l'objet avant même que l'objet soit parti. C'est-à-dire qu'on arrive à prédire le futur, c'est-à-dire qu'on sait d'une certaine manière qu'il y a une loi. La recherche de ces lois, c'est ce que je trouve une des disciplines humaines les plus fascinantes qui soient, les plus émerveillantes qui soient. Et il se trouve que, voilà, on a trouvé des lois pour le très grand qui nous ont amené à Einstein, à l'histoire de notre univers. On a trouvé des lois pour le très petit qui nous ont donné la physique quantique, les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, absolument toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Et puis entre les deux, il y a Newton et il y a le vivant. Mais si on prend ces deux extrêmes, le très grand et le très petit, ils se parlent pas trop et ils sont même un peu en contradiction l'un avec l'autre. Donc on peut se dire, qu'à cela ne tienne. Il y en a un qui est pour le très grand, l'autre qui est pour le très petit. Donc c'est pas très grave s'ils se parlent ou non. Mais il se trouve qu'il y a dans notre univers deux endroits où le très grand et le très petit se parlent nécessairement. L'un d'entre eux, ce sont les trous noirs, des endroits où des choses gigantesques deviennent minuscules. Et l'autre endroit, c'est le Big Bang, quand notre univers est né, où tout ce qui est la réalité d'aujourd'hui était contenu dans un endroit minuscule. À ces endroits-là, on est à la limite du savoir d'aujourd'hui. Et le Big Bang, il n'y en a qu'un, hein, et il est dur d'atteindre vu qu'il est dans le passé. Alors que des trous noirs, il y en a partout. Donc étudier les trous noirs nous permettra peut-être de comprendre l'origine de notre univers.
Est-ce que tout ce savoir que vous possédez sur l'univers, le Big Bang, la formation et l'évolution des galaxies, les trous noirs, les supernovas, les origines du rayonnement cosmique, la matière noire, est-ce que tous ces savoirs amoindrissent l'émerveillement de l'observation de l'univers grâce, par exemple, aux images du télescope spatial James Webb ?
Alors non seulement ça l'amoindrit pas, mais sans ce savoir-là, on n'aurait pas ces images. Car c'est grâce à ce savoir qu'on a construit des technologies qui nous permettent de voir l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus rigolo, je trouve, comme on le disait tout à l'heure, nous avons une sorte de vision de ce qu'est la réalité autour de nous. Ça, c'est culturel. La vision qu'on a, nous, aujourd'hui, nous sommes les seuls à la voir. Il y a 100 ans, elle était différente. Dans 100 ans, elle sera différente. Mais on a une structure dans la tête qu'on projette sur l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est lorsque cette projection ne correspond pas à ce qu'on voit. Quand ça marche, c'est très bien, on n'y pense pas, notre cerveau même ne s'active pas vraiment. Mais pour peu qu'il y ait quelque chose qui soit différent, pour peu qu'il y ait de l'inattendu, de l'inexpliqué, là, tout d'un coup, l'émerveillement commence et on se dit « Waouh, il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui est caché. »
Alors, il y a une chose qui m'a émerveillé dans votre livre, c'est l'apparition de la reproduction sexuée. La nature a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps pour expérimenter et améliorer ce mode de reproduction. Un milliard d'années, c'est ça, d'expérimentation sexuelle?
Oui,
un milliard d'années.
Et les scientifiques, oui, ils ont appelé ça le milliard ennuyeux.
Ennuyeux.
Oui, dommage.
Un milliard d'années. C'est fascinant d'imaginer ce milliard d'années.
Il y a des partenaires qui n'ont pas fini de chercher encore aujourd'hui, vous savez.
Mais non, mais c'est fascinant d'imaginer ce milliard d'années, ce qui fait évidemment relativiser notre bref passage sur Terre.
Bah, en fait, tout ce qu'on découvre fait relativiser notre bref passage sur Terre, comme vous le dites. Néanmoins, lorsqu'on se regarde non plus comme un individu, mais comme un individu appartenant à une espèce, là, ça change tout. Parce que là, on s'inscrit dans une recherche ou une compréhension ou une histoire qui est beaucoup plus longue et qui permet d'atteindre, comme on le disait tout à l'heure, qui permet d'avoir le savoir que nous avons aujourd'hui. Et il y a quelque chose, je trouve, d'extrêmement rassurant du fait de ne pas juste être un pion qui disparaîtra et qui est apparu et qui disparaîtra et dont personne ne se souviendra jamais, mais de faire partie d'une espèce qui, entre autres, essaie de découvrir les merveilles de la nature.
Alors vous écrivez, Christophe Galfard, je vous cite, que la vie n'a pas évolué d'organismes faibles vers des organismes plus forts, ni du mauvais vers le bon. La vie, une fois qu'elle a existé, a exploré des possibilités d'une génération à l'autre, d'un lieu, d'une époque et d'un environnement à un autre. Sa quête n'a jamais été celle d'un progrès, si tant est que ce mot signifie quelque chose ici, mais celle de l'équilibre, cherchant à être prête, à être adaptée aussi bien que possible au changement de l'environnement.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on découvre petit à petit en observant. Peut-être que je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose de très doux dans la phrase que vous venez de lire. Mais lorsqu'on demande aux gens, par exemple, est-ce qu'on a découvert des lois qui s'appliquent aux vivants et uniquement aux vivants, disons, il y en a une qui a été découverte par Darwin et Wallace, et qui est celle de l'évolution.
Wallace, explorateur britannique. Ouais.
Absolument, qui est celle de l'évolution par sélection naturelle. Bon, cette vision-là nous laisse croire que c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Et que quelque part, si le faible disparaît, c'est bien fait pour sa tronche, il avait qu'à être plus fort, c'est qu'il n'est pas adapté. Et cette idée s'est propagée dans tous les pans de notre société, que ce soit depuis éventuellement le couple, jusqu'au développement personnel, en passant par la politique éventuellement, jusqu'à la façon dont certaines entreprises sont gérées, les rapports humains en général. Mais il y a eu, dans les années 70, une femme qui s'appelle Lynn Margulis, qui, en regardant l'évolution de Darwin, s'est dit « j'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait les plus grandes révolutions qui aient existé sur Terre. » Elle n'est pas en train de dire que Darwin a tort, parce que Darwin correspond à ce qu'on voit autour de nous. Mais les plus grandes révolutions qui ont eu lieu dans le vivant, notamment celle qui a mené à notre apparition à nous, celle où des cellules à l'intérieur d'organismes ont été dotés soudainement peut-être de petits compartiments à l'intérieur d'elles-mêmes, des noyaux, des petites choses pour faire de l'énergie, etc. Et d'après Lynn Margulis, ce n'est pas le combat du plus fort qui a fait ça, mais la collaboration du vivant qui a permis de faire apparaître ce genre d'organismes, notamment tous ceux qu'on voit autour de nous, les plantes, les animaux, etc. C'est la collaboration qui l'a amené.
Alors parmi les nombreuses merveilles de la science que vous admirez, il y a le code génétique. Racontez-nous.
Alors, une des raisons pour lesquelles je me suis mis à écrire La vie à portée de main, c'est que quand j'étais en thèse, je faisais de la physique théorique, et je m'étais interrogé à un moment. Bon, on a le très grand, ok, on sait, c'est la gravité d'Einstein, on a le très petit, ok, c'est la physique quantique, mais entre les deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'applique? Oui, c'est Newton. Est-ce que Newton s'applique aussi au vivant? Ou est-ce que ce qui fait la différence entre le vivant et le non-vivant, c'est qu'il y a une substance qui serait là, une sorte de fluide vital qu'on aurait en nous et qu'on transmettrait à notre descendance, qui fait que la descendance serait vivante, qui animerait l'inanimé, en gros. Bon, ce fluide, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Pas du tout. Et comme on le disait tout à l'heure, du coup, comment est-ce qu'on comprend l'hérédité? Comment est-ce qu'on comprend le fait qu'une descendance ressemble à son ascendance? Eh bien, cet ADN qui est en nous est un code qui décrit tout ça, est un code qui a à l'intérieur de lui, avec des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, il y a écrit dans chacune des dizaines de milliers de milliards de cellules qui forment nos corps, il y a ce code qui est là et qui explique à la nature comment nous fabriquer nous.
Et ce que vous admirez dans ce code génétique, je vous cite, c'est ce processus d'une résilience, d'une efficacité, d'une fiabilité, d'une interconnexion sans précédent dans les sociétés humaines.
Merci de me relancer parce que c'est ça que j'allais dire tout à l'heure et j'ai oublié enfin.
Je vous ai bien lu.
Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est la lecture de l'introduction d'un livre de cours que je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde parce qu'il fait 2500 pages en format A4 et c'est des équations partout.
Ça fait pas peur à Guillemette.
Eh ben Guillemette va se lancer.
Mais à partir de maintenant, ça, j'ai plus peur du tout. D'ailleurs, je veux plus être critique, je veux être scientifique, et moi je trouve ça passionnant là.
Merci, vous avez bien raison. Et malgré la nuit blanche qu'apparemment je vous ai fait passer en lisant le livre.
Ah ben 560 pages, effectivement.
Oui, mais ça a été... agréable.
Bah c'est marqué dessus, puisqu'il y a eu une nuit blanche, c'est qu'il y a eu fascination. Ah non, mais quand on tombe dans le livre au début, après c'est difficile de s'en sortir, faites gaffe. Hein. Faites gaffe, réservez-vous un week-end.
Dans cette introduction, le livre s'appelle « Biologie moléculaire de la cellule ». Et ben dans cette introduction, les auteurs écrivent que si on prend l'information humaine, la façon dont on écrit, on stocke des choses, la musique, etc., et qu'on regarde sur les, je sais pas, 50, 60 dernières années, on est passé du vinyle au CD, au DVD, à la disquette, à la clé USB, au disque dur. Bon, bah essayez de lire un vinyle avec un disque dur. Essayez de lire une clé USB avec un lecteur cassette. C'est impossible. La lecture de l'information et la façon dont elle est stockée a changé une dizaine de fois, disons, en 50 ans. Et lire ce qui était avant avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est juste pas possible. L'ADN, le vivant, tout le vivant qu'on connaît sur Terre stocke l'information sous forme d'ADN, à peu près. C'est à peu près la même chose. Tout. Et tout ce qui est écrit dans un organisme peut être lu par un autre organisme. Et la nature le stocke de cette manière-là depuis plus de 3,5 milliards d'années. C'est quand même fou. C'est que la nature a trouvé un moyen de stocker l'information, qui est ce que vous disiez, d'une résilience inégalée dans les sociétés humaines.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est fascinant. Et du coup, on peut, à l'inverse... se dire que si la nature a trouvé justement ce moyen-là, etc., et qu'on n'arrive pas bien à comprendre, parce que nous, avec nos petites inventions technologiques, on a justement ces effets de rupture, etc., est-ce que ce mystère-là, c'est pas ce qui ouvre la porte à une forme d'au-delà de la science qui serait la croyance ?
La foi.
La foi, par exemple. Non pas forcément pour opposer l'un et l'autre, hein, mais pour dire qu'il y a un au-delà de ce que l'on peut savoir et que cet au-delà, en fait, appelle à une forme de foi. Alors, en un dieu, en un grand horloger, en plusieurs dieux, en un architecte, enfin...
C'est la fameuse métaphysique d'Aristote, en gros, ce qui est au-delà de la physique. Voilà. Alors... il y a une phrase sur laquelle je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire, qui est que les deux n'ont pas forcément besoin d'être mis en opposition. La physique, disons, ou cette discipline humaine qui est d'essayer de comprendre et de trouver les règles cachées dans la nature, peut-être les lois du jeu, hein, quelque part, est complètement indépendante de toute foi. Elle est là, il se trouve que ça fonctionne, il se trouve que rien, on ne pourrait même pas parler à la radio là maintenant si on n'avait pas compris des fondements de physique. C'est juste impossible de créer ça. Mais il y a des limites. À ce savoir, il y en a à toutes les époques, il y a des limites. Et le but de la recherche, c'est de pousser ces limites. Maintenant, la vraie question, je pense, qu'on peut poser, c'est comment faire pour aller plus loin que ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, dans les laboratoires dans lesquels j'ai travaillé, il y a énormément de personnes qui sont croyantes, de religions différentes, et c'est source de cette foi, disons, est source d'intuition pour eux. On ne sait pas d'où vient l'intuition non plus. Pourquoi quelqu'un va trouver la bonne solution alors que d'autres vont se tromper? pourquoi quelqu'un va avoir une idée ou pas, eh ben peut-être que la foi peut aider, tout comme l'athéisme, tout comme ce que vous voulez. L'imaginaire, on ne sait pas d'où ça vient, mais je ne mettrai pas les deux en opposition.
Tiens, une petite surprise, Christophe Galfard, le comédien Thierry Lhermitte a tenu à vous laisser ce petit message.
Bonjour Christophe et bonjour Ali, c'est Thierry Lhermitte. Juste un petit mot pour vous dire combien j'ai aimé La vie à portée de main de Christophe Galfard. Ça m'a expliqué mais des tas de choses dont j'avais une vague idée grâce à mes visites de laboratoire depuis 20 ans. Ça les a mis en ordre. Et puis un truc que ça se lit d'abord avec une facilité déconcertante malgré la complexité du sujet. Et puis un truc que j'ai apprécié, une question que je pose toujours dans mes visites de laboratoire. Quand on me donne un nom que je ne connais pas, ben j'aime bien savoir ce que ça veut dire. Par exemple, les cellules, les astrocytes. Voilà. Eh ben, astro, ça fait comme une étoile, et puis cyte, ça veut dire cellule. Donc, les cellules qui ressemblent à une étoile. Eh ben, dans le livre de Christophe Galfard, eh ben, il y a ces explications. Et quelquefois, même les chercheurs n'ont pas d'explication. Pas des trucs aussi basiques que ça, mais sur l'étymologie des mots. Et ça aide à comprendre, me semble-t-il. Et son livre est formidable et d'une clarté qui ouvre les yeux sur la complexité de la nature. Donc, merci Christophe et merci Ali de m'accueillir.
Thierry Lhermitte, féru de science et ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Bah, entre ce que Guillemette a dit tout à l'heure et ce que Thierry Lhermitte vient de dire à l'instant, moi, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça. Il y a une chose qui, pour moi, est le plus beau des trophées que je puisse jamais avoir, et j'en ai de temps en temps, sont des emails que je reçois, notamment de jeunes filles, qui me disent qu'elles se sont mises à faire de la recherche en physique, en biologie, etc., suite à des conférences, suite à mes livres.
Et vous mettez en lumière et en valeur des femmes scientifiques dans votre livre.
Et quand des garçons me disent ça aussi, je suis content.
Allez, dans un instant, c'est la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. On écoute ce que tu me fais interpréter par Lynn, 10h52 sur Inter. Ce que tu me fais.
Philosopher,
France Inter,
comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, dans votre punchline philo, vous vous intéressez à l'une des citations les plus célèbres de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Bah oui, parce que moi aussi j'avais envie de parler un peu de science. Donc j'ai pris la citation dans laquelle il y avait deux fois le mot. Voilà. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça sonne d'abord un peu comme une mise en garde un peu générale, certes bienveillante, mais à propos de la connaissance en général et de la connaissance scientifique en particulier. Quelque chose comme, ok, soyons savants, mais restons raisonnables, ne dépassons pas trop les limites. Cette mise en garde, elle est pourtant étonnante, parce que Rabelais, c'est précisément l'homme qui a fait du savoir une grande fête. T'es moine, médecin, romancier, c'est un des grands champions de l'humanisme de la Renaissance. Avec lui, avec d'autres humanistes, l'érudition devient la plus haute expression de notre humanité. Dans ses romans, Gargantua et Pantagruel, il imagine donc ces géants dévorés de curiosité, insatiables de connaissances, qui apprennent tout, le grec, le latin, les mathématiques, la musique, la médecine, la philosophie. C'est l'ivresse d'une époque où l'imprimerie vient d'être inventée et tout d'un coup, le savoir devient facilement, plus facilement accessible en tout cas, tout ce savoir lentement accumulé par l'humanité. Alors quand le géant Gargantua écrit à son fils Pantagruel « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », on a un peu l'impression d'un deux poids deux mesures. Le champion du savoir lui-même fixe une limite au savoir. Pourquoi donc exalter la connaissance d'un côté et s'en méfier de l'autre ?
Alors sans doute parce que les mots « science » et « conscience » ne veulent pas dire au XVIe siècle ce que nous entendons aujourd'hui.
Et comme toujours, Ali, votre intuition est la bonne dans cette chronique, absolument. Au temps de Rabelais, la science ne désigne pas encore ou pas seulement ce que nous appelons les sciences aujourd'hui, la biologie, la physique ou la chimie. La science, c'est le savoir dans son sens le plus large, l'ensemble des connaissances qu'un être humain peut acquérir, quelle qu'elle soit. Et quant à la conscience, elle n'est pas simplement cette petite voix intérieure qui nous soufflerait si ce que nous faisons est bien ou mal. Pour Rabelais, cette conscience, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est finalement le sens de ce que l'on fait. Rabelais nous rappelle donc simplement qu'il est aussi important de connaître que de savoir pourquoi l'on apprend à connaître. Et si l'on ne lit pas solidement les deux, on risque alors la ruine de l'âme. On risque de perdre notre humanité, un peu comme un médecin qui soignerait de façon extrêmement précise et excellente, mais sans égard pour la souffrance de ses patients, ou comme un physicien qui percerait tous les secrets de la matière, sans faire mine de comprendre en même temps que cela peut avoir des conséquences. Rabelais n'est donc pas contre la connaissance, il est contre un savoir qui tournerait à vide parce qu'il aurait perdu le fil de sa responsabilité vis-à-vis de notre humanité. Le « comment », pourrait-on dire, doit se conjuguer au « pourquoi ». Cette formule, elle a été écrite en 1532, mais elle continue de résonner aujourd'hui, alors même, oui, que notre époque produit du savoir en grande quantité dans tous les domaines. Notre conscience collective, on a l'impression, elle a peine un peu à suivre. L'intelligence artificielle, le génie génétique, les algorithmes qui fascinent nos opinions, la connaissance et ses usages technologiques courent plus vite que notre réflexion éthique et métaphysique. Mais ça n'est pas la seule responsabilité des savants. Notre progrès scientifique, il a besoin d'une conscience commune et partagée. La responsabilité, au fond, elle est collective, elle est politique, comme elle est aussi personnelle et quotidienne et ordinaire pour chacun de nous. Et ça veut dire que ça implique que toutes et tous, nous nous intéressions davantage à la science, au savoir en général, que nous prenions davantage le temps de comprendre les enjeux des recherches scientifiques de notre temps. Et ça implique aussi que les savants, comme le fait Christophe Galfard, prennent le temps d'expliquer leurs travaux et les travaux de la science en général. Pour que ainsi, tous ensemble, nous puissions juger. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est une invitation finalement à ne jamais séparer ce que l'on sait de ce que l'on veut être tous ensemble.
Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Christophe Galfard. La vie à portée de main, c'est publié chez Albin Michel. On vous retrouve demain en direct à 11h et en public sur France Inter pour votre émission Big Bang. Et les enfants peuvent lire Les Explorateurs de l'Univers. Merci Christophe. Merci à Cyrine Benyounès, Joseph Ascal, Anna Massardi et Lucie Grandet-Lavigne pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noélia Filliol. Merci à Claire Destacan et à Maria Pasquet pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Marie Potier. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Lundi, comment prendre soin de son ventre ?